Chapitre 8 Le gendarme de l'océan. Debout auprès de l'homme de barre, Otto Stein, la face tournée vers l'arrière du yacht, fixait l'horizon à l'aide d'une paire de jumelles prismatiques. Il les abaissa en entendant le pas précipité de Karl Kressel qui escaladait l'échelle de la passerelle. « Où est-il ? » demanda aussitôt ce dernier. « Là-bas, à deux quarts dans le sud. » « C'est un Américain, je crois, d'après sa silhouette, » répondit Stein. Kressler lui prit ses jumelles et en balaya l'horizon. Vers le sud, la forme géométrique d'un navire de guerre se détachait nettement sur le ciel bleu, ses trois cheminées vomissant des tourbillons de fumée rousse. Il devait filer au moins 20 nœuds à en juger par la vitesse avec laquelle il se rapprochait. De chaque côté de son étrave, une énorme volute d'écume blanche tachait les flots. Quant à son pavillon, impossible de le voir, caché qu'il était par ses hautes cheminées et la fumée qui en jaillissait. « Oui, ça doit être un Américain, » murmura Kressler. « Un maudit Yankee. Il est inutile de tenter de le fuir. Là de l'air donne à peine 12 nœuds. Quand sa coque est propre, ce qui n'est pas le cas. » Le mieux est simplement de... Le grondement du canon interrompit le bandit. Le bâtiment de guerre, quel qu'il fût, ordonnait à Adler de stopper. C'était le coup de semonce, ainsi que l'appellent les marins. « Faites hisser les pavillons, Stein !» ordonna Kressler, toujours calme. « Faut gagner du temps !» Otto Stein regarda son chef d'un air incertain. « Lesquels » demanda-t-il. « Anglais, Américains, Français ou Chiliens ?» Kressler ne parut pas surpris de cette question étrange. Mais il resta quelques secondes avant d'y répondre. « Il aurait fallu connaître la nationalité de ce damné navire de guerre, » murmura-t-il soucieux. « Si c'est un Anglais, nous sommes Américains. Les autres nationalités peuvent nous servir. » « Allemand ?» suggéra Stein. « Non, non, l'Allemagne n'est pas très considérée en ce moment, je crois. » Un second coup de canon, à blanc encore. « Mais la prochaine fois, il va nous envoyer un obus, » grommela Stein, en pâlissant légèrement. « On verra bien, » fit Kressler, qui porta de nouveau les jumelles à ses yeux. « Ah, c'est un Américain !» s'écria-t-il. « J'ai vu les raies. Faites hisser l'Union Jack, vite !» et faites tourner la plaque du tableau arrière. Nous sommes l'Eagle de Southport, appartenant à la General Cable Supply Company. Je vais préparer les papiers. Hé hey !» Stein fit entendre un acquiescement indistinct et se précipita vers l'échelle qui dégringola à toute allure. Le navire de guerre, cependant, continuait à se rapprocher. À travers la fumée, son pavillon américain se distinguait nettement. C'était un de ces petits croiseurs rapides, des estafettes, tout en chaudière et en machine, et capable de dépasser 30 nœuds et plus. Impossible de lutter vitesse avec lui. Kressler eut un éclair de haine dans le regard. Il marcha vers le transmetteur d'ordre et télégraphia au mécanicien de stopper. Il n'y avait pas autre chose à faire pour Adler, s'il ne voulait pas être coulé. Les navires de guerre de toutes les nations sont les policiers de la mer. La juridiction internationale leur accorde le droit d'arraisonner et de visiter tout navire de commerce. Pour un navire honnête, c'est une simple formalité qui n'a d'autre inconvénient que celui de retarder la traversée d'une heure ou deux. Mais l'Adler n'était pas un navire honnête. Tandis que le yacht, ses machines stoppées, ralentissaient rapidement, Kressler, après un nouveau regard haineux à l'adresse du bâtiment américain, pénétra dans la chambre de veille et ouvrit une armoire renfermant plusieurs livres de bord, 5 en tout, autant que l'Adler possédait de nationalité. Kressler attira à lui celui de l'Eagle, de Southport, et le feuilleta rapidement. Ses sourcils se froncèrent, le fameux livre n'était pas à jour. Les dernières notes s'y trouvant dataient de plus d'une semaine, et le temps manquait pour le compléter. Kressler sortit de la chambre de veille, le livre à la main, et faillit se heurter à Stein, qui arrivait haletant. Les pavillons sont hissés, Herr Kressler, et Marlbourg vient d'anesthésier les prisonniers. La machine à glace est en marche, nous. Mais ce livre, interrompit Kressler en brandissant le fascicule, il n'est même pas à jour. Une semaine de retard. C'est Yang Kio, si stupide soit-il, pour nous demander d'autres explications, d'autant plus qu'ils savent peut-être déjà que le câble Yokohama-Vancouver est coupé. Mais comment? C'est impossible, nous. Et la TSF compte-t-elle pour rien? Siffla Kressler en haussant les épaules. Oh, nous voici dans un bel embarras, et par votre faute. Enfin, nous verrons. Dites à Marbourg de s'enfermer avec les prisonniers dans la chambre frigorifique. S'il entend deux fois résonner le timbre électrique, c'est que les Américains auront tout découvert. Dans ce cas, les prisonniers devront être tués immédiatement et jetés dans le broyeur des escarbilles. Allez, le char de recevoir les Yankees. Urbach est prévenu, je pense. Oui, il est avec l'équipage dans le faux pont arrière. Bon, allez. Stein, en silence, redescendit de la passerelle. Kressler entra dans la chambre de veille, ayant ouvert le livre de Lord Legal de Southport, y écrivit rapidement ces quelques mots. 6 heures soir, navire en vue au sud-sud-ouest, c'est le câblier allemand Franz Denksen qui nous demande de lui céder 1000 mètres de câble. Notre provision étant épuisée, nous n'avons pour accéder à ce désir. Avons vendu quelques provisions et donné 2000 livres d'or d'eau douce. Et Kressler, ayant scellé chez la page, relut complaisamment sa prose et eut un de ses minces sourires sardoniques, rare manifestation de ses sentiments. Puis il referma le livre et, s'étant appuyé à la rambarde de la passerelle, saisit d'une paire de jumelles et observa le navire de guerre. Celui-ci arrivait avec la vitesse d'un train express. Son nom, rivé à son étrave en lettres de cuir poli, se lisait maintenant très facilement « Mermaid ». Arrivé à 1000 mètres de l'Adler, immobile, le petit croiseur stoppa, cependant que de ses flammes gris se détachait une élégante baleinière. L'embarcation, mue par 8 rameurs, fila en direction du yacht dont elle atteignit rapidement l'échelle qui avait fait amener Stein. Un jeune midshipman gravit lentement les degrés de bois. « Le capitaine ?» demanda-t-il brièvement à Stein, qui était venu l'attendre à la coupée. Sur la passerelle, vous désirez le voir ?» Le jeune officier, bien qu'il eût à peine 20 ans, sentit le ridicule de cette question. « Oui, je suis venu pour cela, en effet, » dit-il sèchement. « Veuillez me conduire auprès de lui. » Stein s'inclina sans mot dire et, flanqué du midship, se dirigea vers la passerelle. « Veuillez me montrer vos papiers ?» lui demanda l'officier américain après avoir salué Kressler. Celui-ci, sans se départir de son flegme, fit signe à l'officier de la Mermaid de le suivre dans la chambre de veille, où il désigna, étalé sur une table d'acajou, divers papiers et brochures. « Eagle Southport, » lui dit-il tout haut, « venant de Hong Kong et se rendant à Vancouver. » C'est en règle. Mais vous êtes bien petit pour un bâtiment câblier. Nous réparions d'habitude les câbles côtiers pour le compte du gouvernement chinois, expliqua Kressler. Mais il paraît que la compagnie à laquelle nous appartenons a vendu l'Eagle à un armateur de Vancouver. Du moins, c'est ce qui m'a été dit lorsque nous sommes partis de Hong Kong. Mais vous êtes à plus de 200 miles au nord de la route que vous devriez suivre, il me semble. Ben, je le sais, oui, nous avons eu une avarie de machine qui nous a immobilisés pendant plus de 3 semaines. Les courants nous ont entraînés. Mais vous auriez dû aussitôt revenir vers le sud. Ben, je vous demande pardon. J'ai naturellement calculé un arc de grand cercle allant de l'endroit où je me trouvais lorsque la machine a été réparée au point occupé Vancouver. C'est naturel. Oui, acquiesça le midshipman sans insister. Le livre de l'or, Pease? Kessler s'attendait à cette question. Avec la plus grande tranquillité, il tendit à son interlocuteur l'objet demandé. Mais, s'écria aussitôt l'officier américain, il n'est pas à jour. Mais en effet, j'ai été souffrant depuis une semaine et n'ai pas eu le temps de le tenir au courant. Quant à Bonsgour, il a dû rester sans cesse sur la passerelle en l'absence d'autres officiers. Et naturellement, il s'est plus occupé du livre de l'or. Nous avions un lieutenant avant, comme vous avez pu le voir par les articles, mais maintenant que nous ne travaillons plus au câble, la compagnie l'a supprimé. Midshipman ne répondit pas. Il lisait les quelques lignes tracées par Chrysler quelques minutes avant son arrivée à bord. Un bateau câblier allemand, murmura-t-il. Il y a longtemps que vous l'avez rencontré? 8 jours, fit Chrysler. Mais l'encre est fraîche. Oh, pas tout à fait, affirma le bandit sans se déconcerter. Ce qui est écrit là date de ce matin. J'avais commencé à rattraper le temps perdu et à mettre le livre à jour. L'officier américain s'inclina. Il était grand, ce bateau câble, insista-t-il. 2 à 3 000 tonnes, et il semblait être là depuis longtemps en mer. Il m'a demandé 1 000 mètres de câble, ce que j'ai pas pu lui accorder, attendu, j'en avais pas 1 mètre dans mes cuves. Ah, c'est probablement ce navire qui a coupé le câble Honolulu-San Francisco, et peut-être celui de Vancouver-Yokohama, murmura le jeune officier avec la candeur de la jeunesse. Veuillez me donner le point exact où vous l'avez rencontré. Chrysler, sans se faire prier, fournit le renseignement demandé. Le midship, après quelques menues questions, se déclara satisfait et, sans plus insister, déclara qu'il en était en référé au commandant de la Mermaid. Il eut à peine quitté l'Alder que Stein rejoignit Chrysler sur la passerelle. Vous n'avez pas vraiment roulé, Hein, Herr Chrysler, fit-il la face dilatée par un gros rire. Oui, mais. Son capitaine sera peut-être pas de son avis. On a dû relever le câble de Honolulu, celui que nous avons travaillé le premier. Et on s'est aperçu qu'il avait été fraîchement coupé. Cela n'a pas été difficile à constater. Alors on avisa par sans fil tous les croiseurs d'avoir à rechercher le câblier qui avait fait l'affaire. J'aurais dû y penser, mais je ne croyais pas que les choses iraient si vite. Et Chrysler fit quelques pas, les sourcils froncés, visiblement inquiet. Ah, les voilà qui signalent! S'écria Stein en désignant les pavillons qui montaient le long du mât de misaine du croiseur. XVB, ulut-il. Ah oui, je connais le signal. Il nous ordonne d'attendre une nouvelle visite. Mais ce qui veut dire que nous sommes perdus à moins d'un miracle. Et je crois pas au miracle, Stein. Le capitaine de la Mermaid a été moins naïf que son subordonné. Ils vont fouiller le navire et découvriront le frigorifique. Mais il n'y a aucune preuve contre nous, puisque les prisonniers seront supprimés par Marbourg. Oui, mais toute l'affaire s'écroule et, dans le plus heureux cas, nous sommes ruinés, conclut Chrysler. Stein ne répondit pas. Chrysler, sans plus s'occuper de lui, quitta la passerelle et rentra dans sa cabine. 10 minutes ne s'étaient pas écoulées que de nouveau la baleinière du croiseur se dirigea vers l'Adler. Stein, qui n'avait pas quitté la passerelle, put voir qu'un second officier était assis auprès du jeune midship. Stein se dirigea vers la coupée où il arriva pour accueillir les 2 officiers américains qui étaient suivis d'un piquet de marins en armes. Nous avons ordre de visiter votre navire, déclara l'officier qui accompagnait le midship. C'était un lieutenant de vaisseau d'une 40aine d'années et qui ne paraissait pas facile à endormir, lui. Les Américains lui emboîtèrent le pas en silence.